Alors, on va commencer peut-être par la lecture de ce texte bouddhique dont je vous ai parlé hier, le pauvre barbier, qui nous remet dans notre condition humaine, finalement. L'être de bénédiction passa devant ma maison. Ma maison à moi, le pauvre barbier. Je courus. Il se retourna et m'attendit, moi, le pauvre barbier. Je dis, puis-je te parler, Seigneur ? Il dit, oui, lui à moi, le pauvre barbier. Et je dis, la paix existe-t-elle pour un être comme moi ? Il dit, oui, même pour moi, le pauvre barbier. Et je dis, puis-je te suivre ? Il dit, oui, même moi, le pauvre barbier. Et je dis, puis-je rester, Seigneur, près de toi ? Il dit, tu le peux, même moi, le pauvre barbier. Nous allons voir ce matin comment l'esprit œuvre. Et on va essayer, en tout cas. Et quelles peuvent être les dérives ? Comment reconnaître en soi et que c'est l'esprit qui parle, et pas moi ? Et comment entrer en familiarité avec l'esprit ? L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ est un ami pour nous. Il ne vient pas pour nous juger. Il vient pour nous éviter de nous mentir à nous-mêmes. Il vient pour nous établir dans ce qu'on appelle le principe de réalité. Comment accepter qu'aujourd'hui je sois ce que je suis, et comment dépasser, et comment et aujourd'hui, bon, j'ai d'abord à accepter ce que je suis, c'est-à-dire le principe de réalité, mais et à partir du moment où je deviens éclairé, je ne vais pas tout accepter. Je vais entrer dans ce qu'on peut appeler une acceptation active, c'est-à-dire je vais dire oui ou je vais dire non. Et tout cela va être accompagné par cet esprit qui va nous mener à l'essentiel de la vie, c'est-à-dire comment faire la jonction entre la vérité et l'amour. Un amour sans vérité est très dangereux. Ça peut amener à n'importe quoi, à des soumissions, des manipulations, des dépendances, etc. Et une vérité sans amour peut être meurtrière. Et donc, c'est la tâche de l'être humain d'accueillir, on pourrait parler des dimensions paternelles et maternelles de Dieu, qui sont en tout être humain, qu'on soit homme ou femme, chacun a en soi une dimension paternelle et une dimension maternelle. C'est-à-dire qu'on va être quelqu'un qui va pour soi-même poser des repères, les transmettre d'une façon ou d'une autre, et tout cela avec un cœur de miséricorde. Et donc, c'est pas simple. Nous avons pris vérité et amour comme base de notre travail entre nous, et c'est loin d'être évident. On est ou dans l'un ou dans l'autre, ou trop laxiste, ou au contraire beaucoup trop critique, et la tâche de l'être humain, il va toujours être entre deux contraires. C'est la tâche de l'être humain. L'invisible, le visible, et la chair et l'esprit, la terre et le ciel, enfin bon. Et en soi, on va demander à l'esprit de nous équilibrer, bien entendu, et pas d'une façon absolue, mais de nous acheminer. Et donc, la première chose, je crois, c'est de devenir familier avec l'esprit. Bon, nous nous posons énormément de questions, c'est normal. Et ces questions, au lieu de nous les poser, je dirais dans comme ça, nous avons d'abord à les poser à l'esprit. C'est lui qui va nous répondre. Et souvent, dans les accompagnements, les personnes arrivent avec une question et je leur dis, et bon, mais tu as ouvert ça à l'esprit ? Ah non. Eh bien, tu aurais dû, avant de me voir moi, et c'est évident que tu aurais dû l'ouvrir à l'esprit, et tu aurais pu avoir une réponse. Alors, comment je vais décrypter cette réponse? C'est ça le problème. Alors, on va essayer. Je ne promets rien parce que, nous sommes, on peut dire, entre deux précipices qui sont où l'esprit va tout faire, et je ne fais rien. Il y a beaucoup de groupes qui sont là-dedans, je ne bouge pas. Et donc je ne remplis pas ma part. La part de Dieu, elle est là, mais il y a une réponse qui n'est pas donnée, une tâche qui n'est pas assumée. Ou bien je pense que je vis dans l'esprit et je ne vis pas dans l'esprit. Et ça, c'est redoutable. Et on va voir par différents exemples comment ça peut se produire, et une espèce de toute-puissance qu'on vit avec la meilleure bonne volonté du monde et qui fait que je ne suis pas du tout dans l'esprit, je suis vraiment dans ma volonté à moi, mon désir à moi, et puis je ne me pose pas de questions. Je crois que pour s'embarquer, j'allais dire, dans la vie dans l'esprit, il faut avoir une très grande humilité. Je crois que c'est vraiment la disposition du cœur, c'est-à-dire que on va souvent partir vers un inconnu qui tout d'un coup va se révéler à nous, soit dans notre vie à nous, soit dans des personnes qu'on aide. Et on est très habitué à être dans des étapes, des réponses toutes faites. Bon, et c'est là que nous devons être des éveillères et accepter des questions dérangeantes et apprendre à réfléchir sur des questions dérangeantes, parce qu'elles se posent. Il y a des formations, vous le savez, enfin, notamment chez les jésuites. Et un jour, je parlais des jésuites et les dominicains m'ont dit « Bon, alors, et nous ?» Bon, alors maintenant, je rajoute, et bon, chez les dominicains aussi. Bon. Et donc, ces formations, moi, j'en ai fait une. Je suis resté 10 ans hein, dans un groupe de formation en discernement. Bon, c'était intéressant, bien sûr, on a les bases, mais c'est pas ça qui m'a appris à vivre l'esprit dans mon métier. On n'en parlait pas. Bon, on parlait de la désolation, la consolation, enfin bon. Bon, et moi, je me disais, moi, je voudrais savoir comment on fait pour introduire l'esprit dans le quotidien d'un métier. Et c'est ça qui m'intéressait. Bon, et je l'ai découvert par l'expérience, comme ça, tout seul, en laissant faire l'esprit. Et quelque chose qu'on a ne pas oublié, et moi j'étais toujours faiblard, j'ai toujours été faible devant la violence et les conflits, tout en ayant de la violence en moi, mais qui n'était pas nommée. Donc c'était dangereux. Et dans le métier d'avocat, on est en face du mensonge, on est en face de jugements impitoyables de la part de l'adversaire. Il y a quelquefois des requins, il y a des prédateurs, enfin bon, il faut vraiment être costaud. Et moi, je demandais toujours la force de l'esprit. Et alors, pour moi, il y avait ma faiblesse, et puis il y avait la force de l'esprit qui se faisait face. Alors, l'esprit, j'y croyais, mais moi, j'étais toujours aussi faible. Jusqu'à ce que Xavier Thévenot m'apprenne qu'il m'a dit « Mais c'est une erreur d'avoir l'esprit en face de soi. » C'est pas comme ça. Et on n'est pas moi et l'esprit. Et il employait le terme de « transdynamiser ». Ça veut dire que, par exemple, ma faiblesse à moi devant les conflits, qui quelquefois je mourais de peur, pas pour moi, enfin, bien qu'on était souvent avec des jeunes avocats insolents, enfin, donc qui vous traitaient de tout, d'avoir falsifié des témoignages, enfin, bon, Dieu sait, mais par rapport à ce qui pouvait arriver à son client. Hein, j'étais en droit de la famille, donc il y avait des enjeux aussi bien financiers que par rapport aux enfants, vraiment très très sérieux, par rapport à des manipulations, des comportements pervers, enfin bon. Et à la fin, je ne pouvais plus supporter, chaque avocat se lève à tour de rôle, et je me dis, ça va commencer, si l'autre commençait avant moi, parce qu'on a des tours pour passer, je me disais, je vais entendre des horaires sur la personne que je défends, et ça, je ne peux plus le supporter. Bon, et Xavier m'a appris que l'esprit allait rentrer dans ma faiblesse et allait la fortifier, c'est ça, transdynamiser, c'est un terme magnifique. Et le souffle, je demandais toujours la force, la force de l'esprit, c'est-à-dire tenir bon, rester calme, savoir répondre, ne pas fuir, bon. Et cette force-là, il y a des dossiers que j'aurais préféré ne pas prendre. Bon, et un jour, j'avais demandé, on était en groupe, à un de mes confrères, moi, je sais que ça va être terrible, il m'avait dit, bon, fais ton choix, si tu veux aider la personne qui est là, tu y vas, si tu veux pas, tu laisses tomber. Bon, et j'ai accepté, et ça a été terrible, bon, sur tous les plans. Et alors, au fur et à mesure, je vivais que j'étais fortifiée par cette transdynamisation, et c'est très important de se dire que c'est comme ça que l'esprit œuvre. Il va rentrer dans ma faiblesse, qu'elle soit de n'importe quel ordre, et il va lui redonner force, lui redonner lumière, dans une, pas complètement, j'ai toujours eu cette fragilité, mais gardez bien ce terme de transdynamisation, il est magnifique. Et donc la grande question, c'est comment reconnaître si c'est l'esprit ou si c'est moi. Alors je m'étais dit que finalement, je ne sais pas si c'est bien. Et je pouvais donner des exemples. Et je vais essayer. Alors, tout ce que je dis n'empêche pas d'aller se former, hein, parce qu'il y a quand même des bases théologiques, pour ceux qui le souhaitent, qu'on peut avoir. Mais moi, je dois dire que dans le... Alors, je sais qu'il y a aussi, mais là, je n'y ai pas été, j'étais dans des enseignements d'en haut, enfin... qui partait d'en haut. Et je sais qu'il y a chez les jésuites des enseignements dans le quotidien. Ça, je n'ai pas fait. Je suis resté 10 ans là-dedans, mais chez nous, enfin dans le groupe où j'étais, ça n'existait pas à l'époque. Et ça doit être très bon, ça. Alors, comment voir comment l'esprit œuvre ? Bon, d'abord, peut-être que je vais parler de ma démarche à moi, parce que je la connais. Bon, ça ne veut évidemment pas dire que chacun doit avoir la même. Chacun doit avoir sa propre démarche. Et c'est la question qui va être posée aujourd'hui, après l'enseignement. Quelle va être ma démarche aujourd'hui ? Et bon, pour vous expliquer un peu comment je fais, ça ne veut évidemment pas dire que c'est ça qu'il faut faire, parce que... chacun va avoir la sienne, et je crois qu'on a dit dans la voiture tout à l'heure que vous aviez comme thème inventer sa vie. On est exactement là-dedans. Comment inventer sa vie ? Moi, je rajouterai dans l'esprit. Comment bâtir du nouveau dans l'esprit ? Alors, moi, j'étais très. Ça s'est produit en 73, où j'ai appris par les charismatiques que l'esprit existait. Ça m'a comblé de foi. Je me suis dit, si l'esprit existe, il va m'aider. C'est sûr qu'il va agir, je l'ai cru tout de suite. Et bon, c'était le début des charismatiques, où il n'y avait pas les béatitudes, le chemin de neuf, tout le monde était mélangé. Il y avait des leaders qui venaient du Canada ou d'Amérique, et moi j'étais subjugué par ceux qui racontaient de la vie de l'esprit dans l'être humain. Et je me suis dit, bon moi, alors là j'y vais. Et donc c'est le premier déclic qui vient, je n'avais aucune idée de la vie dans l'esprit. Et la première idée, c'est ça me percute. Et donc, je vais l'authentifier. Et peu après, bon, je vous ai dit, c'est une période où tout a explosé dans ma vie, plus rien ne tenait. Non, sur rien, ni sur ma foi, ni c'était vraiment, tout avait explosé. Et je me suis dit, un jour, je me revois j'étais sur un petit tapis de prière, et tous les matins, j'ai toujours eu un temps de silence et de prière. Et je me suis dit, bon, alors, qu'est-ce qui tient en moi ? Rien, sauf, je me suis dit, j'ai quand même un désir, c'est de servir Dieu, d'être au service du royaume. Et je me suis dit, ça, je le tiens. Alors, je le tiens, j'ai appelé ça la consécration du cœur. Je me suis dit, au moins, ce désir-là, je peux le valider, l'authentifier. Et je l'ai fait. Et je me suis dit, je suis sûre que le Christ, malgré la pagaille dans laquelle je suis, ne me renverra pas. Et en même temps, je me disais, je prends mes risques. Parce que bon, toujours je me disais, je prends mes risques. Et j'ai consacré mon cœur, et en regardant que tout autour, il n'y avait plus rien. Tout était en bombe. Et ça a été une joie incroyable. Pendant des mois, je me suis réveillée le matin en disant « Mon cœur est consacré au service du royaume, mon cœur est consacré à Dieu. » Alors, je pense que ça, pour moi, c'est évident. Comment j'ai pensé à ça? J'étais farci de culpabilité et je ne sais pas. Ça, c'est une touche de l'esprit parce que j'ai vu quel bonheur ça m'a donné et je n'aurais pas eu l'idée de faire ça. Je n'avais jamais lu un truc pareil. Et après, j'ai reparlé de la consécration du cœur et un moine m'a dit, mais chez nous, il n'y a pas besoin d'en parler parce qu'on a tout consacré à Dieu. Et j'ai dit, oui, mais c'est bon pour les gens qui s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils ont tout raté. Et bon, j'en ai beaucoup en accompagnement, des prêtres qui s'en vont, des moines aussi, enfin bon, des gens qui ont une rupture, bon, des gens qui ont des difficultés sexuelles. Bon. Et donc, pour ces gens-là, ils ont besoin, quand tout s'écroule autour d'eux, d'avoir un centre solide. Et pour moi, c'est le cœur profond. Et je lui ai dit, je comprends que pour vous, si vous consacrez toute votre vie, si vous rentrez au monastère à 20 ans et que vous en sortez jusqu'à votre mort, vous n'ayez pas besoin de consacrer le cœur. Tandis que nous, enfin, beaucoup, en tout cas moi j'ai besoin. Parce que j'ai besoin de valider, d'authentifier quelque chose de stable en moi, de sûr. Et ça, ça m'a appris que quand on tenait quelque chose comme ça, on a à le valider, on a à l'authentifier, on n'a pas à le laisser partir comme ça, on va poser, je vais parler de l'acte, hein, hier matin, hier midi. Et l'acte, je vais poser un acte. Alors l'acte que je veux est comme je peux. Moi, le terme qui m'a toujours convenu, c'est le nouveau, avec un N majuscule. Et alors quand je parle du dessein de Dieu, pour moi c'est l'entrée du Christ qui nous envoie l'esprit, bon, inventer ma vie, comme vous dites, et bâtir, inventer ma vie à partir de mon présent, à partir, évidemment. Et je ne vais pas le laisser passer comme ça, en essayant de vivre au jour le jour. Et est-ce que oui ou non, j'ai le désir de bâtir ma vie? Si j'ai vraiment le désir de bâtir ma vie en Christ, je vais m'engager. Pour moi, l'engagement a toujours été fait. C'est un acte intérieur. Je vais prendre position. Je ne vais pas me dire, je vais voir, je vais essayer, après tout. Bon, non, je vais prendre ça. Si j'y crois, je le tiens, je le valide, je pose un acte. Et c'est le départ de quelque chose, hein. C'est le choix, c'est la détermination, c'est mon désir. Mon désir, c'était de servir le royaume. Mon cœur est consacré au service du royaume, au service du Christ. Je ne savais absolument pas comment. Alors ça, c'était vraiment dans le vide, mais ça ne fait rien. On n'a pas besoin d'attendre des circonstances favorables et pour se lancer, c'est ça, on attend toujours. Qu'est-ce qu'on attend? Pourquoi attendre? Et donc, le nouveau me convient. Et j'ai fait une sorte de, oui, d'engagement, vraiment, de serment, où je me suis dit, moi je vais me mettre au service du nouveau en Christ. Bon, on pourrait dire de la résurrection. Mais la résurrection, bon, je préfère le nouveau. C'est un terme. On prend le terme qui nous convient. Et donc, mon engagement dans le nouveau, il n'a pas changé, hein, depuis. C'était en 73, en 72. Ça. Et donc, ça tient. À partir de là, je vais laisser œuvrer l'esprit. Et j'ai appris, peu à peu, comment ça marchait. Et je me suis lancé. Je me suis dit, je vais expérimenter, je vais voir comment ça marche. Alors j'ai pris quelques exemples. Quelques exemples de la façon dont l'esprit œuvre. Comment on peut repérer? Alors personnellement, moi je repère en relisant ma vie. En relisant ce qui m'arrive dans la journée et en voyant, et d'abord, tous les jours, je reprends cet engagement. Ça me comble de joie, vraiment, d'être au service du nouveau. Alors, je le suis comme je peux, et ça ne me tracasse pas. Et ce qui me tracasse, c'est tous les jours de reprendre cette direction-là. Et je suis très bien dans le pauvre barbier. C'est tout à fait la prière qui me convient, qui peut ne pas convenir à d'autres. Mais moi, là-dedans, je suis vraiment ça me convient de penser comme ça. Je suis le pauvre barbier, toujours, qui se présente au Seigneur avec un peu comme les ouvriers de la dernière heure. J'ai mis très très longtemps à comprendre ça. Et donc, dans le dessein de Dieu, qui est que je sois habité par l'Esprit pour réaliser un petit peu, à ma place, l'œuvre de Dieu. Vous savez, il y a un célèbre coadjuteur d'évêques canadien qui s'appelle Charles Mathieu, et qui fait la différence entre faire des œuvres pour Dieu ou faire l'œuvre de Dieu. Et c'est magnifique, moi, il a des problèmes après, mais pour moi c'était un prophète sur le plan. Et il parlait de la vie dans l'esprit comme ça. C'est la première fois où j'ai vu quelqu'un qui disait l'esprit m'a dit que, enfin c'était vrai, enfin, bon. Et il a eu un message prophétique, et puis après ça a été plus difficile. Bon, mais peu importe, pour moi ça a été un prophète. Moi je relis ce qui arrive avec ce socle tous les jours de « je suis au service du nouveau ». Et c'est bien, je crois, de prendre un terme qui convient. On ne va pas s'enfiler dans un terme qui ne convient pas. Moi, le nouveau, ça me parle très. Le nouveau, dans ce dessein de Dieu, dans ce départ du Christ, dans la forme, il vous est bon que je m'en aille. Si je pars, l'Esprit viendra. Bon, c'est ma foi. Et j'ai une foi qui devient de plus en plus simple, qui est, par rapport à ce qu'on a vu hier, je suis à la porte, je frappe, si vous entendez ma voix, si vous ouvrez, j'entrerai, j'œuvrerai. C'est ma foi. Et dans tout ce que je vis, j'y crois. Ça, c'est ma foi. Bon, il y a le credo, mais ça, c'est ma foi. Et alors, est-ce que j'y crois? Et chaque fois que je suis là devant, je me dis, bon, si je lui ouvre, il va œuvrer. Et donc, ça m'établit dans la confiance. Je ne sais pas ce qui va arriver, mais je sais que j'ai à entendre, à ouvrir, à m'engager, voilà. Ne fuyez pas, c'est le message biblique, ne fuyez pas devant votre tâche. N'allez pas trouver des compensations, n'allez pas trouver. Bien sûr qu'on trouve des compensations, des formes de fuite, des alibis, mais c'est votre tâche. Ne fuyez pas, et ne fuyez ni dans le psychologique, ni dans le spirituel. Ne fuyez pas non plus dans le spirituel. C'est une grande tentation, on lève de côté l'incarnation et gardez les pieds sur terre, entrez vraiment dans votre chair et que votre chair accueille le Verbe. Alors, la relecture. Par exemple, dans ma rue, il y a une vieille dame qui a au moins 90 ans, sinon plus. Et c'est un quartier qui est très confusable, on se rencontre dans la rue, on se parle. Et un jour, elle m'arrête, on me demande toujours des nouvelles, et elle me dit, figurez-vous qu'avec une voisine, nous avons perdu nos maris il y a plusieurs mois, enfin bon. Et elle dit, on est entré dans une espèce de tristesse profonde, nous étions toutes les deux dans un couple très uni, et maintenant nous sommes seuls, nous allons vieillir seuls, et bon, on ne peut plus s'aider, s'épauler. Et elle disait, on est entré dans une tristesse, chaque fois qu'on se rencontre, on en parle et on pleure. Et un jour, cette dame a dit, bon, alors ça suffit, hein, et elle est très dynamique, et elle est encore plus tendue que moi, et elle dit, bon, alors maintenant ça suffit, on va trouver quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé? Elle a dit, bon, on va inviter des gens âgés, seuls du quartier, à venir jouer au canasta. Bon, et on va le faire. Et elle m'a dit, vous n'imaginez pas, notre vie a changé. Parce qu'on s'est mis en mouvement, parce qu'elle a un petit jardin avec un figuier, elle est dans une chaise longue, et puis il y avait deux tables de canasta, enfin les gens qui passaient arrêtés, disaient bonjour, enfin bon. Et elle dit, notre vie a complètement changé. Et je lui suis dit, c'est fantastique. Parce qu'elle est en plein dans la loi, la première loi de vie, qui est choisir la vie, pas la mort. Et quelque part, toutes ces deux personnes âgées étaient dans un chemin de mort, en s'enfonçant de plus en plus dans leur malheur, parce que c'est quand même une épreuve grave. Elle a eu un rebondissement, c'est l'esprit, hein, elle a eu un rebondissement de vie, ça suffit. On va bouger, on va faire quelque chose. Et j'ai été dans l'admiration de ça, je l'ai dit d'ailleurs, parce que je l'ai dit, c'est l'esprit ça. Peu importe qu'elle joue au canasta, c'est pas tellement les choses qu'on fait, c'est quel est le mouvement, c'est l'acte intérieur. L'acte intérieur dit on va pas prendre un chemin de mort, de mélancolie, et puis rester là-dedans. Et moi je dis c'est une inspiration de l'esprit. Des fois d'aller jouer au canasta, bon après il peut y avoir autre chose, elle aurait pu y avoir une autre inspiration, mais ça c'est une inspiration d'esprit. Parce qu'elle remet en vie des personnes qui sont isolées, solitaires, qui vont se retrouver ensemble, c'est deux fois par semaine, et elle dit si vous saviez combien on attend, ça fait dur, hein, c'est des 2h à 8h du soir, et tous ces gens qui sont là, c'est leur pôle de lumière. Ils se rencontrent, ils parlent, ils prennent l'été ensemble, enfin bon. Et ça, c'est une œuvre de l'esprit. Un jour, je reçois un homme qui avait fait les sessions et qui me dit qui était un accompagnant spirituel de qualité, mais uniquement spirituel. Il ne connaissait rien de la psychologie. Enfin, j'ai découvert qu'il ne connaissait rien de la psychologie. Et il me dit « Je viens vous voir ». Bon, je lui ai dit, soyez le bienvenu, et je lui ai dit, pourquoi vous venez me voir? Il me dit, je ne sais pas, vous savez. Ah ben, je dis, non, moi, c'est vous qui savez, et vous pouvez avoir des demandes d'ordre divers, qui sont de mon secteur ou pas de mon secteur, je peux vous orienter, bon, mais moi, je ne sais pas. On a passé une heure terrible, je n'ai jamais passé une heure comme ça. Alors, je lui dis, comment vous voulez, de quoi vous voulez qu'on me parle? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Bon. Et je me disais, mais où on va tous les deux? Ça a été très, pour moi très très dur parce qu'il n'y avait rien. Et je lui dis, vous voulez qu'on parle de votre histoire? Et ah non, non, il n'y a rien dans mon histoire, tout va bien. Enfin, bon. Bon, j'ai l'obré des vies, c'était toujours bon. Bon, et puis au bout d'une heure, moi, je n'en pouvais plus parce que je me suis dit, bon. Et puis, je ne le connaissais pas du tout. Hein. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans l'esprit, parce qu'il y a beaucoup de gens spirituels qui ne vivent pas vraiment dans l'esprit, qui ne savent pas ce que c'est, qui ne savent pas comment le vivre. Et je lui dis, bon, écoutez, on va prendre du temps, on va prendre 15 jours, vous allez ouvrir votre demande à l'esprit et lui demander de vous éclairer pourquoi vous venez me voir. Et moi, je vais faire pareil de mon côté. Je vais demander à l'esprit de m'éclairer pour avoir les bonnes questions qui vont vous permettre de bon. Et il a pas du tout résisté. Il aurait pu me dire, enfin non. Et il est parti et on s'est dit au revoir sur le seuil de ma porte. Et voilà, tout d'un coup, en me serrant la main, qui me dit, quand même, hein, je réfléchis à ce que vous m'avez dit, j'ai quand même fait frais, souvent, mais je ne sais pas pourquoi, des mouvements de colère contre ma mère. Ouh, je lui dis, ça y est, on prend ça. Et puis, je lui dis, bon, on va partir de là. On verra bien ce que ça donne. Bon, et il avait un problème sérieux avec sa mère, qu'il n'avait jamais. C'était un fils aîné, et la mère voulait qu'il soit, enfin bon, qu'il soit vraiment le fils aîné, le modèle de l'enfant, enfin, etc. Et il avait été très prégnante. C'était un milieu agricole. Bon, il a fait un chemin fantastique. Et c'était un homme, et j'ai beaucoup apprécié. Bon, les hommes, on ne peut pas les accompagner comme les femmes. Et nous avons ce qu'on appelle un accompagnement régressif, c'est-à-dire on va dans l'histoire. Les femmes peuvent aller dans leur histoire facilement. Les hommes, ça les barbe. Bon, il faut bien dire ce qu'il y a. Ils ont envie de foncer, de créer. Et un homme dit très souvent, ah non, non, comme celui-là, il n'a rien à faire. Et puis tout d'un coup, on peut apprendre, par exemple, il y en a un jour qui m'a dit, moi, mes parents sont partis en Afrique, j'avais 7 ans, et c'était un pays dangereux, enfin, où ils allaient, c'était dangereux, ils sont partis avec les aînés, et moi, ils m'ont laissé en France. Et ils m'ont laissé en France, comment? Eh bien, ils étaient très riches, dans des grands hôtels, des palaces. J'étais le chouchou du directeur, enfin bon, c'était génial. Je faisais du vélo, du patin, enfin bon, les serveurs étaient aux petits soins pour moi. C'était épatant. Et il se trouve que cet homme avait un problème sérieux qu'il n'arrivait pas à résoudre. C'était qu'il n'était pas adulte. Il était face à un héritage. Il ne voulait pas bouger. Et c'était ses frères qui devaient régler l'héritage à sa place. Il ne bougeait pas d'un pouce à sa place, ce qui fait que l'héritage était bloqué. Et alors on cherchait pourquoi il était bloqué. Qu'est-ce qui se passait ? On a mis du temps. Bon, alors le premier, j'ai expérimenté ce qu'était un accompagnement avec un homme qui, de temps en temps, après il a eu un trajet absolument merveilleux, et c'était pas comme une femme. Et il sortait un petit quelque chose en disant « là j'étais pas très à l'aise ». Bon, et bien on va prendre ça, voir pourquoi vous n'étiez pas à l'aise, est-ce que vous avez appris la vie dans l'esprit en même temps ? Est-ce que vous avez ouvert ça à l'esprit ? Alors il m'a dit, vous savez, je vous écoute. Et j'ai dit, je vois bien que vous écoutez. Et je lui ai dit, vous écoutez intensément. J'ai jamais eu quelqu'un qui soit aussi affamé de... Bon. Et puis il arrivait 15 jours après, c'était réglé. C'était réglé. Les femmes avaient besoin de démarches, d'étapes. Hein. Lui, il avait compris que c'était réglé. Bon, au début, je me disais, il faut voir, ça a duré. Et ça a été un trajet merveilleux. Alors, avec l'autre qui était dans les palaces, on a mis du temps à voir pourquoi il se laissait porter et il ne voulait pas prendre de responsabilité. Le fin fond, c'était d'aller regarder quelle souffrance vous avez vécue. C'était épatant, vous patinez, je faisais du foot, etc. Mais quelle est votre souffrance d'avoir vu les parents partir avec les enfants aînés et moi, je suis restée tout seul. Il est même resté tout seul, les parents étaient très riches, dans une villa, je ne sais pas où, enfin au bord de la mer, très, très magnifique, on lui a porté ses repas. À cette époque-là, il avait 13 ans, et plus jeune, il avait 7 ans. Bon, et arrivé à faire le lien, c'est un travail de l'esprit, ça, entre cette souffrance d'abandon qu'il a vécu et le fait qu'adulte, il veut être pris en charge. Vous me devez bien ça. Vous m'avez abandonné, dit-il à ses frères. Eh bien, vous me devez bien ça. Maintenant, vous allez me porter. Et moi, je ne bougerai pas. On a mis du temps là. Et il a fallu qu'il, peu à peu, avec de la patience, que bon, je vais un peu parler de la vie dans l'esprit, qu'il laisse l'esprit lui faire découvrir quelle souffrance d'abandon il avait vécu. Et il disait, c'était génial, c'était merveilleux. Et c'était tellement merveilleux qu'adulte, il n'a pas pu faire le départ. Ça, c'est le travail de l'esprit, qui nous empêche de nous mentir à nous-mêmes. Et l'esprit va nous mener en vérité, comme ça, de passage en passage, et pour nous apprendre à être vrai. Et il va le faire sans nous bousculer, en suivant notre rythme, et avec un très grand amour, et nous n'avons pas à avoir peur, parce que l'esprit ne va pas massacrer le rythme que nous avons, ça va être chacun selon sa possibilité. Alors je relis tout ça, par exemple Jonas, dont je vous ai parlé hier, tout d'un coup, je reçois, j'aime bien relire du début. Je ne voulais pas recevoir cette jeune femme. À la voix, je sentais qu'elle était jeune. Effectivement, elle n'avait pas 30 ans. Et j'ai quand même dit oui, alors que je n'étais pas du tout en état. Pourquoi j'ai dit oui? Et ça, en le relisant, je me dis, c'est l'esprit qui m'a suggéré de lui dire, écoutez, je suis KO, mais je peux quand même vous recevoir si vous ne me demandez aucun travail. Bon, et donc l'esprit était là, veillé à ce que je ne dise pas non. Pour moi, je l'ai remis comme ça. Alors, je l'ai reçu. Pourquoi elle est venue me voir, cette jeune femme? Elle n'était pas du tout orientée vers les chrétiens. Je pense qu'elle avait lu, elle était très fine, elle avait fait une analyse, une longue analyse. Et on a commencé par parler un peu en général de l'évangélisation des profondeurs. Bon, et puis tout d'un coup, elle m'a dit, est-ce que je peux vous parler de moi? Bon, on s'est dit, bien sûr, allez-y. Et donc, je vais vous dire, allez-y, si je vais vous aider. Et la voilà qui me parle de Jonas. Bon, ni elle, ni moi, nous n'avons rien compris. On était là, quand je dis, moi, je ne sais pas, je suis très perturbée. Elle me dit, je suis très perturbée. Et j'ai dit, moi aussi, c'est la première fois que je vois un harcèlement pareil. J'ai jamais vu ça. Bon, j'ai laissé vivre. Bon, je lui ai dit qu'on allait travailler avec elle, qu'on n'allait pas la laisser tomber, avec son journal. Et puis, comme ça, un bon matin, j'ai toujours un temps de silence le matin, je me suis dit, mais c'est pour moi, le journal, c'est évident. Bon, et ça, c'est une touche de l'esprit qui me fait comprendre que l'histoire de Jonas, c'est un messager de Dieu qui m'est envoyé pour me dire que je dois parler. Parce que Jonas, c'est l'histoire de quelqu'un qui ne voulait pas aller à Ninive, qui a été quand même de mauvais gré, qui a annoncé, l'Éternel l'a envoyé, si Ninive ne se repent pas, je la détruis. C'était l'Ancien Testament. Bon, Jonas est envoyé pour dire ça. Il a une peur épouvantable, parce que Ninive, il y a mis 3 jours pour parcourir Ninive, ce serait comme Paris. Et puis, il est parti sur un bateau. Et puis, il y a eu un naufrage. Il a dit au capitaine, écoutez, c'est moi. Hein. Parce qu'il avait raconté au capitaine son histoire. Il avait dit, moi, je fuis, hein, parce que je ne vais pas obéir à mon Dieu. Et le capitaine lui a dit, je crois que c'est toi qui ne sais pas ce que tu ne veux pas obéir à ton Dieu. Le capitaine ne dit pas dans ce Dieu-là. Que tu nous apportes le naufrage. Et Jonas a dit, oui, et bien, il a dit, jetez-moi à la mer. Et le capitaine a dit, moi, je ne vais pas vous jeter à la mer, vous allez mourir, et jetez-moi à la mer. Si vous ne me jetez pas à la mer, vous allez faire naufrage. Alors le capitaine finit par le jeter à la mer, et Jonas est avalé par une baleine. Et il va vivre dans, c'est symbolique tout ça, hein, il va vivre dans le ventre de la baleine pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, donc de 3 jours, c'est symbolique, hein, les 3 jours, sont les 3 jours de la passion du Christ, du silence, de la réflexion. Et la baleine, donc, au bout de 3 jours, va lui voler tous les chiffres, hein, sont symboliques, ont une signification. La baleine va le rejeter sur le rivage. Bon, et là, il s'est dit, bon, eh bien, je vais obéir. Et l'Éternel lui apparaît, bon, il rouspète un peu, il y va. Il annonce la ruine de Ninive à grand cri, et le roi, d'une façon tout à fait inattendue, dit, eh bien, on va tous se repentir. Et donc, Ninive se repent, le roi donne un jeûne de 3 jours, encore 3 jours, et il dit, c'était pas tant, il dit, mais tout le monde va jeûner, même les animaux, les vaches, les chiens, tout le monde va prendre le jeûne, on va se couvrir la tête d'un sac de sang, etc. Et voyant ça, l'Éternel épargne Ninive qui ne sera pas détruit. Et Jonas est fou furieux. Au lieu de l'Éternel lui dit, mais enfin, comment tu peux pas te réjouir de ce que Ninive ait été épargnée. Il dit non, parce que je suis couvert de ridicule. J'ai hurlé qu'ils allaient périr, et puis voilà que tu les sauves. Bon. Il meurt rebelle. Moi, quand j'ai revu Jonas avec cette jeune femme, je ne m'étais pas rendu compte que le Seigneur lui dit, tu n'as pas honte. Non, je n'ai pas honte, j'ai raison d'être en colère. Et ça se termine comme ça. Alors, pour l'amour du Seigneur, pour essayer de... Il fait très chaud, évidemment, dans ce pays. Il fait pousser un ricin pour le protéger du soleil. Et quand Jonas dit, bien sûr que si, j'ai raison d'être en colère, c'est moi qui ai raison. Le ricin sèche. Il y a un verre qui va dans le ricin, et il perd son ricin. Et il s'en va comme ça. Bon, et donc, il est rebelle. Il n'a pas obéi à l'Éternel. On voit bien le trajet de l'esprit, là, où la repentance, hein, repens-toi de ce dont tu as, pas de n'importe quoi, pas d'une fausse culpabilité, repens-toi de ce dont tu as à te repentir, et l'esprit montre à Ninive de quoi ils ont à se repentir, et puis il y a un serviteur qui ne remplit pas sa tâche, qui l'a rempli, et qui va annoncer, mais qui après ose fait, en disant j'ai perdu ma réputation, c'est ridicule, bon. Et il est rebelle et il fait avorter le mouvement de l'esprit qui est d'annoncer la transgression, de dire que tout est réparable, de vivre que tout est réparable. tu peux sortir de là. Et Jonas ne l'accepte pas. Tant pis. Puisque ma réputation est perdue, eh ben, il n'avait qu'à mourir, c'était mieux. C'est du narcissisme. Et il n'entend pas la voix de Dieu qui lui dit comment. Tu ne peux pas te réjouir du bonheur de l'autre. Non. Bon. Et on voit bien comment on peut résister à l'esprit par ses propres blocages pour sauver sa réputation, etc. Quelqu'un me disait hier, comment vous avez fait pour transmettre des flots d'amour? Est-ce que vous avez fait des prières? Pas du tout, je n'ai même pas pensé, je n'ai pas fait tout à fait cette forme-là. Et ce sont des personnes qui habitent à l'autre bout de ma rue. Il y a Vendre d'un côté, moi je suis de l'autre côté. Donc on se rencontre là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert ma fenêtre et puis j'ai pris de l'amour de Dieu. C'est comme si j'avais en moi un réservoir de l'amour de Dieu. Quand on dit Dieu nous habite, ça veut dire qu'on a ce réservoir de la vérité, de l'amour de Dieu. Et donc j'ai commencé à ouvrir la fenêtre et puis à ouvrir les bras et envoyer des flots d'amour qui me viennent de l'autre. C'est pas mon amour à moi, c'est qui me viennent de l'amour de Dieu. Et je l'ai fait, et bon, je ne l'ai pas encore fait, donc je l'ai recommencé jusqu'à ce que ce soit fait. Et ça m'a amené aussi à revoir quelle était ma part dans ce qui m'était arrivé. Et c'est-à-dire que ce sont des personnes qui m'ont vraiment massacré publiquement, enfin bon. Et quelle est ma part? C'est que quelque part, comment dire, il y avait quelqu'un dans ces petits groupes que je méprisais. Finalement, je ne m'en étais pas aperçu et je ne la trouvais pas compétente pour la fonction qu'elle avait. Et je me suis rendu compte que j'ai eu envers elle une forme de mépris. Et je me suis dit, bon, eh bien, ça, c'est ma part. Et je n'avais jamais pensé avant, je crois que ça vient après ça, l'esprit, d'abord, nous fait vivre comme un peu le choc, et puis, parce que c'était public, et dans toute la France, et après, il importe d'aller voir quelle est ma part dans ce qui m'est arrivé. Et c'est difficile. Bon, mais en même temps que ces flots d'amour, et c'est ça la vérité de l'esprit. En même temps, il me dit que Dieu est miséricorde et que derrière le comportement, il y a des enfants de Dieu et que je dois bénir non pas les comportements, je ne bénis pas du tout les comportements, il ne faut pas se tromper, je bénis l'enfant de Dieu qui est derrière et que Dieu cherche. Et Dieu cherche beaucoup plus des enfants perdus, disons, dont je suis aussi, hein, que je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, pour les malheureux, pour les paumés, pour ceux qui ont perdu la route. Et comment entrer dans ce courant dans des bénédictions et en même temps voir ma part dans ce qui m'est arrivé, c'est le travail de l'esprit. Hein, tout ça, en relisant, comment j'ai entendu, pourquoi ce médecin m'a dit ça, tout d'un coup m'a dit, est-ce que vous avez des ennemis? Bon, je ne pensais même pas lui dire comment vous êtes par rapport à ces ennemis. Bon, c'est toujours l'esprit qui œuvre. Vous êtes dans l'erreur. Hein, si vous n'arrivez pas à pardonner, il m'a pas dit, mais c'est une évidence que le pardon est un très long chemin. Ça faisait 5 ans que j'étais là-dedans et je ne savais toujours pas que j'allais pardonner. Et après, j'ai retravaillé le pardon et j'ai vu que si je n'avais pas pardonné, parce que ça s'est passé, je ne me rappelle plus à peu près en même temps que les flots d'amour, cette affaire. Et en me réveillant, en me couchant, j'ai dit à l'esprit, je voudrais savoir si oui ou non j'ai pardonné. Et pourquoi je n'arrive pas à ressentir que j'ai pardonné. Et le matin, mais c'était une évidence, c'est parce que tu as une revendication. Qu'est-ce que je revendiquais? Moi, j'aurais voulu avoir que la justice soit faite, qu'on dise que ce qu'on disait de moi, ce n'était pas vrai. Bon, et je me suis dit, il y a 5 ans, et ça continue d'ailleurs, et bon, c'est pas la peine, je l'aurai jamais. Et j'étais prête quelque part pour. Je ne nommais pas pourquoi je n'avais pas pardonné. C'est ça le travail de l'esprit. Et quand on lui demande pourquoi je ne pardonne pas, mais c'est devenu. Autant pour ne pas parler, j'ai mis 1 an, autant là, le matin, parce que je revendique que justice soit faite. Or, justice n'a pas été faite, ne sera jamais faite, et c'est comme ça, ça s'est répandu partout, c'était sur cassette, enfin bon, j'aurais pu les attaquer en diffamation, mais ça, je voulais pas le faire. Bon, et c'est ça le travail de l'esprit. Alors, il faut marcher pas à pas. Bon, il faut se garder de demander que la foudre tombe sur les ennemis, comme Jacques et Jean. Hein, vous ne savez, vous êtes du diable, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Et on n'attend rien de spécial. Quand j'ai demandé pourquoi je ne pouvais pas pardonner, j'ai eu la certitude que l'esprit. Moi, j'ai eu la certitude absolue que l'esprit m'aide. Et que si je lui demande d'une façon ou d'une autre, alors il ne m'aide pas toujours comme je veux. Par exemple, aller retrouver ma part, ce n'était pas évident. Bon, mais c'est ça que j'ai eu. Et alors la revendication, ils vont en faire le deuil. Tu ne l'auras pas. Et cette revendication, c'est fini maintenant. Au bout de, ça datait de 5 ans, j'avais beaucoup travaillé. Donc tu es prête à faire le deuil de cette revendication. C'est ça le travail de l'esprit. Et ce n'est pas un exaucement. J'accompagne quelqu'un qui débute dans la vie dans l'esprit et qui a une belle chair dangereuse, manipulatrice, par rapport à une très belle maison, qu'elle est beaucoup plus jeune que son mari, et qui s'est mariée tard, et cette belle sœur aurait voulu hériter, c'est la sœur du mari, aurait voulu hériter de la maison. Bon, et cette maison passe à une nouvelle femme. Et elle est très, très manipulatrice, dangereuse. Hein. Et je lui avais dit, il faut vraiment. Parce qu'elle ne devait pas être là le jour. Cette belle sœur n'est pas venue pendant je ne sais pas combien de temps, 8 ou 10 ans, puis tout d'un coup elle arrive. Et je lui ai dit, bon, faites attention, soyez prudente, soyez là. Votre mari est malade, il est couché, il grabataire, bon, soyez là, présente. Alors, elle me dit, bon, eh bien, je peux demander qu'elle se casse la jambe et qu'elle ne vienne pas. Je vais demander ça à l'esprit. Ah, mais je dis, il n'est pas question, alors ça. Et elle est très docile, c'est quelqu'un qui intègre. Mais voyez, la première idée, c'est Jacques et Jean, que la foudre leur tombe sur la tête, ça leur fera les pieds. Bon, et là, et ça, c'est le travail de l'esprit. Et on n'a pas à juger. Je lui dis, vous ne pouvez pas demander ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans le dessein de Dieu hein, d'envoyer la foudre sur. On est toujours dans le dessein de Dieu, là, comment vivre le dessein de Dieu ? D'envoyer la foudre sur des gens. Donc, ils peuvent être malfaisants, prédateurs. Il y a d'autres moyens de combat que le Christ va nous donner. Et dans la prière, et dans l'ouverture, et dans la non-violence, dans la parole, la non-violence. Mais il faut vous défendre. Et la seule façon qu'elle avait trouvé de se défendre, c'est que l'autre se casse la jambe, qu'elle ne puisse pas venir comme ça, elle était tranquille. Et ça va de soi. Hein. Et donc, ça, nous sommes toujours dans le comment vivre le dessein de Dieu. Et ça n'est pas de Dieu. Et on voit bien l'esprit qui va œuvrer doucement. Et moi, je relis toujours depuis le début. Comment ça se fait que j'ai eu cette idée-là ou que quelqu'un m'a interpellé ? Bon, c'est forcément dans l'esprit. J'ai accueilli. Hein, quand ce médecin m'a dit, vous savez que vous êtes dans la haine, et bien j'ai dit, c'est vrai, ouais, finalement. Parce qu'il m'a dit, réfléchissez. Ben, ouais, c'est vrai. Mais je ne l'avais jamais nommé. Donc je ne travaillais pas dessus. Et je travaillais sur mon propre malheur. Comment pardonner ? Et en réalité, j'avais des actes. On est toujours dans l'acte intérieur à poser. Et l'esprit va nous guider comme ça, pas à pas. Dernièrement, enfin c'était l'année dernière, on a eu à la télévision des retransmissions des enseignements de François Dolto au Canada. Et bon, c'était magnifique. Et François Dolto s'est beaucoup occupé de la psychologie des enfants, des petits-enfants. Et elle reçoit une petite fille qui devait avoir 7 ans, 6 ans, 6 ans. Je ne sais plus comment les enfants l'appelaient. Alors, aux enfants, elle demande toujours une petite rétribution. Elle leur demande un joli caillou, un biscuit, bon, quelque chose, une fleur, bon. Et alors cette petite fille lui raconte tout à fait innocemment que quand elle était petite, ses parents sont allés au cinéma, elle avait peur. Et les parents lui ont dit, si tu as peur, eh ben, va dans le lit de ton frère, tu auras moins peur. Alors elle a commencé à aller dans le lit de son frère, et puis ils se sont mis à jouer à des jeux sexuels qui allaient très loin. Et bon, elle leur raconte ça à l'enfant de Dolto, je ne sais plus comment les enfants avaient un nom pour elle, mais ils ne m'en rappellent plus. Et François Dolto lui dit, mais c'est interdit, tu n'as pas le droit de faire ça. Et donc tu ne dois plus le faire. Et moi je me dis, comment j'aurais fait avec une petite fille comme ça? Je crois que je me serais lancé dans des explications, bon, en plus c'est moins compliqué. Elle, c'est interdit. Elle représente là le repère. Tu ne dois pas faire ça. Cette petite fille est partie, elle est rentrée chez elle, elle a revu son frère, et elle lui dit, Madame Dolto, enfin je ne sais plus comment elle l'appelait, et dit qu'on ne doit pas faire des choses ensemble, et s'amuser ensemble comme ça, c'est pas bien, et c'est défendu. Et le frère a dit, ah bon? Et elle dit, la petite a dit, à partir de maintenant, je ne viendrai plus dans ton lit, et on ne doit plus faire ça. Et je me dis, c'est très remarquable, ça c'est vraiment... Vous savez, un des slogans des 68, catastrophique, c'est « Il est interdit d'interdire, tout est permis ». Bon, et dans la Bible, tout n'est pas permis. Tu quitteras ton père et ta mère, tu ne vas pas demeurer dans la fusion. Tu ne vas pas te laisser manipuler par quelqu'un, tu diras non, tu feras non. Tu ne peux peut-être pas dire non, mais tu t'arrangeras pour faire non. Tu ne vas pas rentrer dans des dépendances affectives qui vont t'empêcher de te faire entrer dans l'idolâtrie, etc. Si tu as manqué d'amour, si tu as perdu l'amour, tu peux retrouver un amour, enfin bon. Et les interdits sont là, tu quitteras ton père et ta mère. Ce n'est pas une option. Les lois de vie ne sont pas une option. Choisis la vie, pas la mort, et ça veut dire, choisis cette dame avec son canasta, elle a choisi la vie. Elle était dans un chemin de destruction et elle ne connaît peut-être pas la loi de vie, nommée comme ça, mais elle est dans le dessein des dieux. Quand on file vers un chemin d'autodestruction, ce qui est très fréquent, et bien on va choisir la vie. Ça, c'est le dessein des dieux. Et comment choisir la vie dans l'esprit, dans la fécondité, dans tout ce qui nous arrive? C'est comme ça qu'on vit le destin de Dieu. On ne va pas réfléchir pendant 107 ans comment moi je peux bâtir, rebâtir ma vie, peut-être sur des ruines, peut-être sur des bonnes choses, peut-être une partie de bonnes choses, une partie de ruines. Bon, mais comment j'ai à rebâtir dans l'esprit? Et pour moi, ça s'appelle le nouveau. Alors le nouveau, c'est un terme qui me convient. Très bien. Alors, les fardeaux. Bon, je vais arrêter là. Hein. On reprendra dans les questions. J'avais dit que je parlerais des fardeaux. Alors, les fardeaux. Bon, tout d'un coup, dans ma vie, moi ça part toujours de ma vie, un petit événement de ma vie. Maintenant, là, il y a 10 jours, je me suis dit, bon... Le matin est toujours difficile pour moi parce que j'ai le foie malade, donc bon, c'est pas simple. Bon, alors je me remets dans la vie, oui, je retrouve l'esprit, enfin bon. Et puis après, voilà que je retrouve mes fardeaux et je me retrouve accablé. Et je me suis dit, alors ça va pas, hein, il y a quelque chose qui est une rupture. Et j'ai pris la parole de Jésus, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui manquait d'énergie. Et je vous donnerai, déposez vos fardeaux, et je vous donnerai le repos de vos âmes, car mon joug est léger, et je suis doux et humble de cœur. Voilà le texte. Bon, et je me suis dit, bon, c'est bien, mais ok, je dépose mes fardeaux, mais je les retrouve. Hein, une fois que je les ai déposés, la plupart du temps, on se dit, bon, je les dépose, je ne les retrouve plus, pas du tout. On les dépose. Alors, quels sont mes fardeaux? J'ai pris mon cahier et j'ai mis, aujourd'hui, quels sont mes fardeaux? Alors, il y en avait deux principaux. Bon, c'était mon état de santé, mais ça, j'ai déjà beaucoup travaillé dessus. Et puis, il y a un fardeau qui était une espèce d'obsession, c'était ranger mes archives. Parce que je suis inondé de cahiers, de papiers. Bon. Et je me disais, bon, j'ai 86 ans, et si ça se trouve, ce sont des choses que je vais remettre au groupe, des tas de tas. Et je me suis dit, si ça se trouve, je n'aurai pas le temps, ou je n'aurai pas la force de ranger, mais j'ai déjà très peu de force, je n'aurai pas la force de ranger mes archives, et c'était devenu une espèce d'obsession. Donc quelque chose qui prend la place comment dire, du royaume. Je suis encombré, voilà, j'étais encombré de plusieurs fardeaux que j'ai mis, les fardeaux de relations, enfin bon, peu importe, j'ai mis tous les fardeaux les uns après les autres. Et j'ai regardé cette affaire d'archives en me disant, bon, de quoi le Christ ne parle pas en l'air. S'il dit « déposez-moi vos fardeaux », c'est qu'il va faire quelque chose. Or, moi, je dépose mes fardeaux et je les retrouve tels quels. Donc, je ne suis pas dans, je dirais, le dessein de Dieu qui est que ses fils et ses filles soient légers pour servir le royaume. Si on est encombré et sur le plan matériel et sur le plan intérieur de multiples choses, j'ai beaucoup travaillé le désencombrement par rapport à mes archives et c'était devenu une obsession. Vraiment que j'ai les archives nécessaires pour le groupe, mais pas plus. Bon. Et alors, j'avais lu dans Adolphe Guéchet que Jésus ne nous délivre pas du mal qui est dans le monde, il nous délivre de la tyrannie du mal. Et je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, la tyrannie du mal. Bon, et là j'ai compris. C'est qu'il nous délivre, il me délivre de l'obsession de terminer mes archives qui n'est pas de Dieu. C'est quelque chose qui n'est pas du dessein de Dieu. Le dessein de Dieu, c'est que ses fils et ses filles vivent légers pour s'occuper du royaume, qu'on ne soit pas encombré de multiples trucs qui nous demandent toujours des rangements, que ce soit sur le plan matériel, des vêtements, enfin des tas de choses, qui fait qu'on est encombré. Si on est encombré, il n'y a pas de place pour Dieu. C'est l'histoire de Noël où Joseph et Marie n'ont pas trouvé de place à l'auberge. Ils étaient encombrés et donc ils ont été là où ils ont pu, c'est-à-dire dans une étable. Et je me suis dit finalement, je crois que ce que nous dit Jésus, c'est que je vais te délivrer, je n'ai pas dit du mal, j'ai dit du souci, de l'obsession d'un but. Alors mon but à moi, là, c'était entre autres les archives, et je me suis dit, bon, donc je crois en ce que me dit le Christ, et je n'ai plus le souci de mes archives, et je deviens légère, je vais quand même m'en occuper. Bien entendu, dans la mesure où je peux, ou bon, si je peux me faire aider, enfin bon, je vais retrouver la nécessité de me ranger ces archives pour les transmettre. Mais c'est plus un souci. Et je me suis dit, bon, je peux déposer le souci et je vais m'en occuper, mais si ça peut se faire, ça se fait, si je n'arrive pas à le faire, et bien ce sera parfait. C'est plus un souci. Et nous pouvons nous demander, là vous voyez, c'est le but qui devient une obsession. C'était devenu une obsession, ce truc. J'y pensais tout le temps, en disant « je n'aurai pas le temps, je vais de ma lampine », enfin bon. Bon, et c'était une obsession qui n'était pas de Dieu. Bon, mais je dois faire ce travail, c'est mon boulot, mais le souci, non. Si ça se fait, tant mieux, si je ne peux pas, eh bien, ce sera comme ça. Bon. Et d'autres le feront à ma place. Ou je trouve tout, enfin bon, peu importe. Et alors, on est toujours dans le dessein de Dieu. Est-ce que j'ai une obsession dans ma demande? Par exemple, la peur de la solitude, trouver un compagnon ou une compagne. Bon, quel est mon but qui devient primordial avant le royaume? Et bien entendu, ça va rentrer dans ce que j'ai à travailler. Par exemple, quelqu'un qui est dans la solitude, qui veut beaucoup trouver un compagnon ou une compagne, et qui ne le trouve pas, bon, on va aller voir sur un plan psychologique pourquoi on ne trouve pas, et quelles sont les vraies motivations pour rester seul. Enfin bon, ça c'est un travail à faire, mais il y a aussi des personnes qui n'arrivent pas à combler leur solitude, et le but de leur vie, c'est de combler leur solitude. Et ça prend une telle place qu'il n'y a plus de place pour le service du royaume. Et comment je vais utiliser, qu'est-ce que ça va être, le service du royaume, le dessein de Dieu? Bon, si pour l'instant, moi je vais accompagner une dame qui devait avoir près de 60 ans, toute sa vie, elle arrivait de trouver un compagnon. Bon, il a fallu voir pourquoi elle ne s'était pas mariée, trop difficile, enfin bon. Mais en même temps, c'était son but. Et elle me dit, moi, tout ce que vous me racontez, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est que le Seigneur me donne un compagnon. Bon, j'ai dit ok, et elle avait déjà 60 ans, et je lui dis, mais en attendant, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi pas? Enfin bon, moi je suis tout à fait d'accord, elle allait dans des lieux de rencontre, pourquoi pas? Aller dans des lieux où il y a des hommes, enfin bon, que vous pouvez rencontrer, bon, et c'est, moi je suis pas du tout contre, hein, si c'est ça votre désir, mais en attendant, ne vivez pas en attendant un exaucement. J'ai accompagné un moine qui sortait de. Une seule fois, qui sortait du monastère, et qui me dit, bon, j'ai très bien vu que j'étais rentré au monastère à cause du désir de ma mère, qui m'avait consacré comme prêtre, moine, à ma naissance. Bon. Et il sortait, et il m'a dit, vous savez, moi je voudrais me marier. Bon, et alors je lui avais dit, il m'a dit, je vous dis que je vais dans des clubs, où, eh bien, j'ai dit pourquoi pas. Enfin bon, faites ce qu'il faut pour. Mais, comment dire, c'est pas. Vous pouvez, je lui ai dit, quelle que soit votre forme de vie, vous pouvez. Vous vous êtes consacré à Dieu dans le cœur, vous pouvez vous reconsacrer à Dieu dans le cœur avec une nouvelle forme de vie. Bon, je lui ai dit, moi, je sais pas, vous allez trouver ou non une compagne, mais en tout cas, vous pouvez réorienter. C'est pas parce que vous partez que vous pouvez pas consacrer votre cœur. Bon, ça aide beaucoup. Vous êtes dans la consécration du cœur. Et alors il m'a dit, et j'ai un mauvais rapport avec les femmes, enfin bon, et je lui ai dit pourquoi vous dites ça. Il me dit parce que dans ces clubs, je me présente toujours, tout dès le premier mot, en disant, vous savez, je suis un moine qui a quitté le monastère après 20 ans. Et donc je lui dis, vous vous rendez compte que, de ce que ça fait auprès d'une femme, enfin bon, qui s'en va tout de suite. Et je lui dis, bon, bien entendu, vous allez le dire rapidement, vous n'allez pas laisser ça dans l'ombre, mais ne commencez pas comme ça. Et bon, commencez doucement. Là, c'est un souci de vérité qui n'est pas prudent. Je lui dis, si vous racontez ça tout de suite, alors là, tout le monde s'en va. Hein. Bon, et le Christ nous rappelle la prudence, une intelligence de la relation qui fait que je ne vais pas m'embarquer tout de suite en racontant mon histoire. Bon, on va s'apprivoiser, et puis, pourquoi pas, enfin bon. Bon, et donc, remettre les fardeaux. Alors, le fardeau, regardons du côté de l'obsession de quelque chose que je demande et où je ne suis pas exaucé pour l'instant. Et donc, est-ce que ça prend le dessus, au lieu de rendre ma vie féconde? Cette dame, elle était professeure, cette dame. Je lui ai dit, vous avez un métier fantastique et en attendant, vous pouvez très bien aller dans des clubs, bon, mais remplissez votre vie en attendant. Ah non, ça ne m'intéresse pas, moi ce que je veux c'est un compagnon. Alors elle m'avait dit, je ne guérirai que si j'ai un compagnon. C'est une idée qu'elle a, parce que ce n'est pas sûr. Enfin bon. Et là, on voit bien comment on dérive de la vie dans l'esprit qui va nous faire comprendre des choses, et peut-être lui montrer pourquoi elle n'arrive pas à trouver. Peut-être qu'elle est beaucoup trop difficile, j'en sais rien, enfin bon, mais c'est un travail à faire, et puis qui va orienter son présent vers la fécondité. Alors, quel est le but dans ma vie qui devient un fardeau par obsession? C'est ça que je veux. Et alors, je vais exercer un contrôle sur la façon dont ça marche, oui, comment l'esprit est en train d'œuvrer, mais ça ne me regarde pas. Comment dire, j'ai fait confiance, et puis, alors, ce qui me regarde, c'est de regarder ce qui m'arrive, et comment je vis. Et le destin de Dieu, c'est la fécondité. Alors, est-ce que je vais attendre de trouver quelqu'un pour être fécond, ou bien est-ce que dès aujourd'hui, je prends position telle que je suis, comme je suis, je vais trouver ma fécondité. Ça, c'est le destin de Dieu. Et mettez en mots vos fardeaux. Il y en a qui peuvent être très lourds, bien entendu, des personnes qui ont témoigné d'un état de santé très difficile. Bon, mais l'esprit, vous n'êtes pas orphelin, ça veut dire je suis avec vous. Tu n'es pas tout seul pour vivre ça. Et donc, de dire simplement à l'esprit, mais qu'est-ce que je peux faire là-dedans? Je ne vois rien. Et je te demande de m'éclairer, pas de guérir. C'est là qu'on s'accroche à quelque chose. Je ne sais pas si je vais guérir ou non, mais en tout cas, comment je peux vivre ça pour continuer à être fécond dans ce handicap-là. Ça, c'est l'esprit. Et l'esprit va me faire comprendre des choses, comme moi pour ces flots d'amour, où en même temps que j'étais des flots d'amour, je dis « et moi là-dedans ». Et j'ai, bon, j'avais pas tellement envie d'aller voir, mais j'ai vu comment j'avais méprisé vraiment quelqu'un en lui dénuant toute compétence dans la fonction qu'elle avait, et que ça, c'est pas possible. Et je l'ai payé. Et bon, et je me dis, c'est comme ça. Il y avait autre chose derrière, mais enfin bon. Alors, les fardeaux, donc, les nommer, les remettre, et être délivré, c'est possible, du souci du fardeau. Je vais les retrouver. Je vais retrouver des parents âgés, je vais retrouver des enfants difficiles, je vais retrouver le chômage, enfin bon, etc. Je vais retrouver une homosexualité que pour l'instant je ne détecte pas, bon, c'est là. Mais comment je vais vivre ça dans bâtir, comment c'est votre... Inventer, exactement ça, c'est inventer ma vie dans le nouveau. Et le nouveau, c'est le dessein de Dieu. Passer de l'ancien au nouveau, c'est ça le dessein de Dieu. Vous viviez autrefois coupé de l'esprit, et dans le nouveau, vous allez vivre habité par l'esprit. J'ai oublié si Michel est par là. À quelle heure je dois m'arrêter, Michel? Maintenant? Je m'arrête maintenant. Bon. Alors, on verra pas mal de choses dans les questions, et notamment les dons. Donc, la fécondité, comment recevoir les dons, ils ne sont pas à nous, ils ne sont pas donnés pour nous. C'est notre bonheur en même temps, mais on a pas à les garder pour soi. Et puis, il y a une petite chose qu'on n'a pas vue. Notamment, quel est mon principal obstacle? Alors, comme question... Je dirais simplement, quel pas je peux poser aujourd'hui dans la vie, dans l'esprit, tel que je commence à l'entrevoir, dans le nouveau finalement, c'est ça. Et vous centrez là-dessus, quel est mon principal obstacle? Le mien. Il peut y en avoir deux ou trois. Et quel est... qu'est-ce qui m'est déjà donné pour le vivre? Peut-être la foi, un acte de foi tout simple. Ça va inclure mon choix, quel pas je peux poser, c'est mon engagement, qui peut être très, très petit. Voilà.
Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là, nous prenons maintenant, en restant sur place, 3 minutes de silence.